Alléluia. C'est un mot de la Bible, des psaumes. Louez l'Éternel, car il est bon. Vous connaissez la suite. Sa miséricorde dure. Alors demain, vous n'aurez pas à douter. Le monde chancelle, les gens conscients le savent, même les non-croyants. Mais ne doutons pas, Dieu sera toujours une forteresse pour son Église. Je voudrais vous donner quelques conseils pour notre temps. C'est un peu un culte d'inauguration. Des conseils pour notre temps, et j'aimerais faire 3-4 petites lectures très brèves. La première, c'est dans l'épître aux Galates, chapitre 6. C'est des conseils. Ce sont des conseils. Parlez bien français. Galates, Nouveau Testament, épître de Paul à des Gaulois. Les Galates étaient des Gaulois. Épître aux Français. Galates, chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Je crois qu'il nous faut dire un mot sur le temps favorable. Je ne sais pas ce que demain sera, ni pour vous, ni pour moi, ni pour le monde. Il ne faut pas perdre sa journée, pas perdre son temps, ses pensées. On a exposé hier la Bible de Luther. On l'a protégée, c'est une vieille dame. Elle est plus vieille que nous. Et Luther, il l'a écrit dans un jour qui n'était pas favorable. Il était poursuivi pour être condamné. Et celui qui le tuait sur le chemin n'était pas puni. Tuer Luther, c'était rien. Et Martin Luther s'est réfugié en Allemagne, dans le château de la Warburg. Et là, pendant qu'il était enfermé, réfugié, caché en secret, il a transformé ce temps difficile en temps favorable. Il a traduit le Nouveau Testament en allemand pendant 11 semaines. Il avait l'impression que les démons de l'enfer étaient jetés contre lui, tellement c'était difficile. Mais pour Dieu, c'était un jour favorable. Il s'est revêtu de la force de Dieu. Il a résisté au mauvais jour. Il n'a pas cédé au découragement. 2 ans, presque, enfermé. Il était comme Daniel dans la fosse aux lions. Il persévérait avec fermeté. Il a traduit pour la première fois la Bible dans une langue parlée par tout le monde, en Allemagne, bien sûr. Dieu lui avait donné rendez-vous dans cette cachette, dans son refuge, pas très bien. C'était pour Luther le jour de Dieu. Il ne fallait pas le lâcher. Il ne fallait pas perdre cette journée, ces semaines. C'était pour le Christ qu'il était en prison. Comme l'apôtre Paul dit, je suis en prison pour le Christ. Je suis prisonnier du Christ, à cause du Christ. Chaque jour est une occasion pour que Dieu fasse quelque chose. Chaque jour est une occasion pour que nous fassions du bien et que nous améliorons notre marche avec Dieu. Chaque jour, il faut veiller et avoir de la persévérance à toujours mieux faire, mieux dire, mieux réfléchir. Nous avons coûté très cher à Dieu. Nous avons coûté son Fils unique. Alors, il ne faut pas gaspiller cette vie. Le Christ n'est pas mort pour notre dernier souffle. Il est mort pour que chaque jour soit beau, fort, combattant. Ne dormons pas. Il nous faut faire des progrès chaque jour pour tailler notre caractère. Ça ne se fait pas en un jour. C'est long. On avance, on recule, on redouble. Ne pensez pas que vous arriverez à un bon caractère en une journée, mais si vous regardez à Jésus, si vous marchez vers lui, vous allez faire des progrès. Comme Pierre qui marche sur l'eau parce qu'il regarde à Jésus. Il fait des progrès. Paul disait, exerce-toi à aimer le Seigneur, à la piété. Exerce-toi à courir, à sauter, à jouer au foot. Mais exerce-toi surtout, d'abord, exerce-toi à aimer le Seigneur. Ça s'apprend. Ce n'est pas quand on a 95 ans, c'est maintenant, dès la jeunesse, qu'il faut aimer le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il est intelligent. Il nous a dit, dites-moi si j'ai tort, on ne construit pas une maison sur du sable. Et le Seigneur, lui, il est intelligent. Il ne construit pas son royaume sur des gens mous, mouvants, sur des gens qui ne sont pas solides. Il ne construit pas son œuvre sur des gens instables, un coup là, un coup là-bas. Il construit sur du solide. Et il prend du temps dans toute notre vie pour faire de nous des gens solides. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le jour favorable, le jour qu'il ne faut pas rater, c'est le jour d'aujourd'hui. Il faut faire des progrès chaque jour. Amen. Je lis un autre petit texte avec vous dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 5. Verset 8. Soyez sobres. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres. Ça ne veut pas seulement dire ne buvez pas d'alcool, évidemment. Mais ça veut dire aussi ne vous encombrez pas trop la vie. Parce que la vie, on peut la passer à ramasser des poussières. Il nous faudra vivre 3000 ans pour ramasser toutes les petites choses. Ne gaspillez pas votre temps, voilà. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Quand un lion rugit, c'est qu'il a très faim. Parce que même quand il a faim simplement, il ne rugit pas. Il rôde. Quand il rugit, ça va mal. Comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Ça veut dire une foi qui dit, il est écrit, j'ai lu dans la Bible, je sais qui est Dieu, il m'a dit dans la parole. Bon, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Deuxième conseil pour notre année, résistez au diable. Quand on n'est pas converti ou quand on pratique le péché, Satan a un droit sur nous. Si nous écoutons ses conseils, sa voix, ses tentations, Satan a sa main sur nous et il est impossible de résister à cet ennemi quand on lui a ouvert la porte. Mais quand on appartient à Jésus, Jésus nous marque d'un sceau, c'est-à-dire d'une étiquette occupée par le Christ. Dieu habite en nous et ça limite la puissance du diable envers nous. Je pense que pour ne pas que le diable rentre chez nous, il faut lui laisser à notre Seigneur toute la place. Il n'y a plus de place pour le diable si Jésus prend toute la place. Aujourd'hui, Satan se promène sur la terre, comme au temps de Job, il n'a pas changé. Et il veut détruire les âmes, il veut détruire les familles, il veut détruire les églises, il veut détruire les projets de Dieu, il veut détruire nos enfants. Personnellement, je pense que c'est la dernière bataille de Satan. Jésus vient, il n'a pas beaucoup de temps, et nous non plus, et moi non plus. Il faut que l'Église sache ce que le diable fait pour qu'elle soit sur ses gardes, en prière. Le diable fait tout pour que on ne pense pas à ça. Il nous invoque de plaisirs, de rencontres, de loisirs, d'argent, de choses, pour qu'on ne pense plus que le diable se promène sur la terre. Il se déguise en ange de lumière. Ça veut dire qu'il ne se présente pas d'une manière horrible, mais il nous trompe. Il nous aveugle, il nous éblouit, tout le monde, il éblouit tout le monde. Mais il sait que nous sommes les plus forts si nous sommes avec Jésus. Il le sait. Il fait tout pour qu'on ne se convertisse pas. Et Jésus dit, il a peur qu'on se convertisse. Il a peur qu'on se convertisse. Parce qu'il sait que les plus faibles parmi nous, les plus fragiles, avec Jésus, peuvent repousser Satan et ses tentations et son armée. L'apôtre Jacques dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous, comme un voleur. Il fuira. » Si nous laissons notre vie sans écouter la voix de Jésus, si nous laissons notre vie sans prière, le diable va former notre caractère pour se servir de nous. Il va nous prendre à son service. Je veux que le Christ forme mon caractère pour être à son service. Mais que le diable ne me prenne pas à son service, au service du péché. Satan est persévérant. Avec Jésus, il revenait à la charge. Il attendait un moment favorable pour vous aussi, un moment où vous n'êtes pas bien, où vous commencez à vous relâcher dans votre vie pour revenir. Et il essaie de mettre son mépris en nous, parce qu'il a du mépris pour Dieu. Il a du mépris pour l'Église de Dieu, pour le peuple de Dieu. Et il essaie de mettre ce mépris en nous pour qu'on dise, Dieu, oh, on a vu d'autres. Soyons sur nos gardes. C'est un serpent qui est entré dans le couple de Adam et Ève. C'est un serpent qui se glisse entre nous par toutes sortes de ruses, de manœuvres. Oh ! Si Satan nous attaquait franchement, déclaration de guerre, s'il nous attaquait clairement, je pense que tous les chrétiens se jetteraient aux pieds de Jésus et Satan serait en fuite. Amen. Mais ce n'est pas franc ce qu'il fait. Ce n'est pas net. Mais croyez que dans cette fin des temps que nous vivons, où tout se détruit, il veut détruire l'Église. Il veut détruire les familles, les couples. Il veut détruire l'amitié fraternelle. Satan a des secrets que je ne veux pas connaître. Ça ne m'intéresse pas. Mais il a des secrets pour nous troubler avant la venue de Jésus, pour nous éloigner. Alors il faut souffrir, patienter, s'encourager, en prenant comme exemple Job, qui a supporté toutes ces agressions de Satan contre lui et contre sa famille. Il faut prendre modèle sur les vainqueurs. Voilà, résistez au diable. Vous êtes d'accord avec ça? Si le diable vous entend, il doit dire ouh, ouh, ouh. C'est bon, ils ne sont pas convaincus. Vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est sérieux. Je crois que je ne vois pas très bien ce qu'il fait. Mais je crois qu'il fait des choses terrifiantes. Bon, je vais lire un avant-dernier petit passage très court. C'est dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, l'Évangile, et c'est le verset... Non, chapitre 2, verset 39. Luc 2, 39. Luc 2, 39. Pour vous dire, je vous ai dit au départ que le Seigneur nous aide de ne pas rater le jour favorable d'aujourd'hui, parce que demain, on ne sait pas si on ne sera pas malade, handicapé ou mort. C'est arrivé à d'autres. Il ne faut pas perdre le jour d'aujourd'hui. Et puis, il faut résister au diable. Et maintenant, je voudrais vous dire, eh bien, que notre caractère se fortifie par les combats de la vie. Je regarde avec vous. Luc 2, 39. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait, il grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Vous vous souvenez, frères et sœurs, que Jésus a été 30 années à Nazareth. Vous en souvenez? Nazareth est un petit village qui avait une mauvaise réputation. C'est un village où j'aurais pas trop aimé habiter. Les gens étaient incrédules. On disait, il n'y a rien de bon à Nazareth. Il vient rien de bon de Nazareth. Mais c'est là que Dieu a décidé de placer son Fils unique, Jésus, qui est petit, qui va être adolescent, qui va être jeune, qui va grandir pendant 30 ans. Et là, j'apprends que dans ce petit village un peu perdu, le Seigneur se fortifiait et il était rempli de sagesse, d'intelligence, dans un milieu hostile, pas agréable. Qu'a-t-il fait pendant 30 ans? Je pense qu'il était dans une vigilance constante. Il était toujours attentif pour qu'aucun péché ne le touche, qu'aucune méchanceté ne le touche, parce qu'il était dans un petit village où vraiment il y avait une réputation mauvaise qui était certainement vraie. Dieu a choisi ce village pour que Jésus, son Fils, se forme dans son caractère, se fortifie, apprenne le combat des êtres humains. Parce que nous aussi, nous sommes parfois placés dans des milieux qui ne sont pas favorables. On est parfois dans un travail où il faut résister. On nous prend pour moins que rien. Dans le quartier, on ne nous dit pas bonjour. Peut-être dans la famille, on est mal considéré. Alors, dans ces milieux défavorables, c'est une école de Dieu. C'est une école pour qu'on apprenne la confiance, la prière, l'essentiel de la vie. Parfois, des gens me disent « Oh, tout va bien, je suis béni, je suis béni. » Je dis « Béni, oui, oui, mais vous savez, le combat de la vie, ça s'apprend aussi dans les difficultés. Jamais je voudrais dire « Je ne vais pas bien, je ne suis pas béni. » Non. Si je ne vais pas bien, ce n'est pas parce que je ne suis pas béni. C'est parce que Dieu me forme pour autre chose. Samuel, il a été élevé dans une famille où les jeunes étaient déplorables, étaient mauvais, adultères, impurs, désobéissants à Dieu. Et Samuel, le petit Samuel, il a vécu dans ce milieu et il s'est fortifié. Dieu nous donne les moyens de supporter les tentations et de se fortifier, parce que Dieu veut des hommes forts. Attention, mes frères et sœurs, ne nous exposons pas à la tentation. Si nous marchons avec les méchants, nous allons finir par copier sur eux. Si nous parlons avec les mauvais, nous allons copier sur eux. Ne vous assoyez pas avec les gens moqueurs qui se moquent de vous, de Dieu. Bien sûr, ne vous exposez pas à la tentation. Et puis, ne dites pas « Oh, j'ai un petit point faible, c'est pas très grave. » Je suis parfait sur tout, sauf un petit point faible. Je suis parfait sur tout, sauf que j'ai mauvais caractère. Bon, c'est pas mal, hein. On va pas leur jeter la pierre. Tout va bien chez moi, sauf que presque rien. Vous savez, une chaîne, une grosse chaîne avec des anneaux, s'il y a un seul anneau qui est faible, la chaîne, elle est forte ou faible? Elle est faible. Il y a 300 anneaux qui sont forts, et pour un anneau qui est faible, la chaîne, elle est faible. Je ne vais pas m'y accrocher, ça va casser. Et parfois, en nous, il y a des choses fragiles et c'est là que le diable rentre. Prenez toutes les armes de Dieu. Ne laissez pas votre visage à découvert. Ne laissez pas votre torse à découvert. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Ne laissez pas votre cœur à découvert. Prenez les armes, le casque, le bouclier, l'armure, l'épée, les chaussures. Ne laissez rien à découvert. Ne laissez pas un petit défaut. Vous dites, c'est rien, c'est un petit point faible. C'est par là que le diable va s'infiltrer. J'habitais ma jeunesse en Normandie, à près de Château-Gaillard. Qui connaît Château-Gaillard? Ah, quelques-uns quand même. Château-Gaillard, sur la Seine, c'est un château formidable. Il a résisté aux invasions normandes, il a résisté, il était imprenable. Et les envahisseurs se disaient, comment on va le prendre ce château? Construit sur les hauteurs, il est très beau. Eh bien, on n'a pas pu le prendre. Ah, il y a un soldat qui a dit, moi j'ai un petit conseil. Il y a une petite lucarne, pas très grande, qui donne sur les toilettes. On pourrait passer par là. Ils sont passés par la lucarne. Puis ils ont cassé le château. Et c'était terminé. Prenons toutes les armes de Dieu. Ne laissons pas accès au diable sur aucun point. Amen. Afin de ne pas tomber entre les mains de l'ennemi. J'ai encore le temps de vous donner un dernier point. Je l'ai écrit un peu en pleurant. Bon, on y va ? Romains chapitre 8. Il y a des choses tristes, vous savez. Il n'y a pas que des choses de toute gaie. On n'est pas toujours guilloré dans la vie. Romains 8, verset 19. La création, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bon. Vous avez compris ? Elle attend que nous soyons ressuscités pour changer aussi. Voilà. Elle nous attend, la création. Elle va mal en ce moment. Écoutez bien le verset 22. Nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Mais je termine là. En vous disant, après la tempête Irma, et puis d'autres choses, nous voyons la fragilité de la création. Et nous voyons la souffrance de la création que nous avons provoquée nous-mêmes, enfin, l'être humain. J'ai appris hier que les dunes crient, les dunes au bord de la mer, les dunes dans le désert, elles crient. Alors, ou elles chantent, je ne sais pas. Est-ce qu'elles crient leur souffrance ? Vous savez que le premier monde au temps de Noé a péri à cause du péché. Il a été submergé par l'eau à cause du péché de l'homme, pas le péché des animaux, le péché de l'homme. L'homme est le maillon faible de la création, mais le Seigneur va le rendre fort. Et aujourd'hui, je regarde autour de moi, je ne voyage pas beaucoup, je regarde les actualités comme vous, et je vois qu'aujourd'hui, la mission de l'humanité, c'est de détruire la terre pour l'argent. Dieu nous l'a confiée pour qu'on la domine, pour l'organiser, pour la mettre en valeur, pour l'utiliser. Et nous la détruisons. C'est grave. Dieu jugera, c'est écrit dans la Bible, ceux qui détruisent la terre, il les jugera. Je me suis parfois demandé que doivent penser les animaux de nous. Ils doivent se dire, mais c'est qui ces gens-là ? Ils cassent tout, ils cassent les forêts, ils salissent la mer, l'air. Il tue les animaux, tue les enfants. Dans les camps de la mort, on jetait les enfants vivants dans le feu. Mais c'est qui ces gens-là ? Mais que sont-ils ? Pourquoi détruisons-nous ? Pour mieux vivre. Avec plus de moyens. Une plus belle salle de bain. Et la mer est détruite. On détruit et on ne se pose pas la question, mais qui fait cela ? Jésus dirait, c'est un ennemi qui fait ça, qui vous utilise et qui a dit, vous serez comme des dieux. Mais nous sommes en communion avec la création. Je mange ce que Dieu me donne dans la terre, je respire l'air que Dieu me donne, je suis en communion avec la création, je ne dois pas la malmener, ni les arbres, ni les enfants, ni les animaux, ni mes parents, ni ma femme, ni mon mari, je dois avoir du respect. Dieu nous a donné l'intelligence et la capacité de faire un monde beau. Et nous travaillons à la mort du monde. C'est normal. Si nous détruisons notre famille, forcément qu'on va détruire le monde. Que faut-il dire aux enfants d'aujourd'hui? Si je leur parle de notre monde à nous, quand ils auront 25 ans, ils ne le connaîtront pas ce monde-là, parce que le monde va changer très vite. Dans 15 ans, ils diront, il parlait de quoi le pasteur Leprat? Mais ce n'est pas le monde qu'il a connu. La seule chose qu'on peut dire aux enfants, il faut qu'ils s'adaptent. C'est triste. Il faudra qu'ils s'adaptent à un monde cassé, pollué. Mais tout ça, ça vient parce qu'on n'a pas été capable de dominer son cœur. Si on ne domine pas son cœur et ses passions, eh bien, on casse tout. C'est un nouveau déluge. Alors, si c'est un déluge, ok, Seigneur, que l'Église soit comme l'arche de Noé. Avec une porte ouverte, on fait porte ouverte en ce moment pour le patrimoine, mais je pense que Noé, il a dû dire, c'est porte ouverte, vous pouvez venir quand vous voulez, hein. Vous pouvez visiter l'arche en construction, parce que je voudrais vous dire que Dieu veut vous sauver. Hier, il y avait moins de monde, il faisait froid, c'est pas beau, c'était un jour d'hiver, mais toutes les personnes qui sont venues nous poser des questions spirituelles, on avait plus de temps. Frères et sœurs, la création souffre, les familles souffrent, les enfants souffrent, les anciens souffrent. Il faut se défaire de l'obsession du plaisir, il faut se défaire de l'obsession de l'argent. Il faut respecter tout parce que Dieu habite dans ce monde, il habite dans l'Église. Il faut respecter les frères, les sœurs, il faut les honorer, il faut les aimer, il faut les aider, parce que Dieu habite au milieu des frères et sœurs. Dieu nous fait responsables de nos enfants. Dieu nous fait responsables de l'eau, de la famille. Dieu nous fait responsables de nos relations, des animaux. J'ai lu un texte. Je termine là parce que ça m'a pris un peu le cœur hier soir. J'ai lu un texte. Dans les derniers temps, les hommes seront insensibles, cruels. Mais je vous dirai quelque chose, j'ai eu peur. Parfois, on a des tac, des slogans, toc. Avec Dieu, ça ira. Oui, avec Dieu. Nous serons un jour dans le royaume d'en haut. Amen. Mais sur la terre, nous pouvons revoir une explosion atomique sur une ville. On ne sait pas ce qui va se passer avec la Corée et la Chine et le Japon et l'Iran et la Syrie. On ne sait pas ce qui va se passer. Tout se prépare pour je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, les gens vont être de plus en plus insensibles, cruels. L'homme est certainement le personnage le plus cruel de la création. Je vous choque ? C'est vrai. Il ne respecte rien. On a besoin d'un retour à Dieu. Amen. Alors je conclue en vous disant, aujourd'hui, c'est un jour favorable. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Aujourd'hui, il faut résister au diable. Que Dieu vous aide, frères et sœurs. Aujourd'hui, il faut être fort, il faut se fortifier. Que Dieu vous aide, frères et sœurs. Amen. Je prie. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce qu'elle nous alarme. Elle nous attire à toi, elle nous fait revenir à toi. Tu ne veux pas que nous soyons désorientés, errants, loin de toi. Je te prie, Seigneur, garde ton Église en paix. Garde-nous fermement attachés à toi. Garde-nous attentifs aux événements de notre monde. Mais garde-nous surtout attentifs à ce que tu fais au milieu de nous. Que ta parole nous rende forts solide comme le rocher. Nous t'en prions. Amen.